C'était au sujet de l'évangile de la femme courbée. Une femme est courbée depuis 18 ans. Elle s'approche du Seigneur et le Seigneur la fait redresser. Vous connaissez l'évangile. Je ne vais pas faire l'exégèse mot à mot parce que ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Je voudrais simplement vous faire remarquer quelque chose. Que cette femme est courbée. Elle est bossue. Elle regarde à ses pieds. Et c'est de ça qu'elle souffre. Elle souffre de ne pas pouvoir regarder devant elle. Elle souffre d'avoir un champ de vision étroit. Et elle ne voit pas plus loin, à défaut du bout de son nez, au moins du bout de ses pieds. Et ça, c'est un handicap grave. Vous pouvez transposer. Nous avons tous, plus ou moins, cette attitude, ou d'une manière générale, ou à certains moments, de regarder le bout de son nez, de se regarder soi-même, de s'enfermer sur soi-même, de regarder ses pieds. Et ceci arrive notamment lorsque pour une raison ou pour une autre, on se lamente sur soi-même. Parce qu'on est mécontent de quelque chose, parce qu'on a été lésé justement, ou on s'est senti lésé, alors qu'on ne devrait jamais sentir lésé, on devrait toujours rendre grâce à Dieu pour toute chose, ou lésé par les autres, je ne dis pas lésé par Dieu, bien sûr. Ou alors parce qu'on a péché et on se sent malheureux. Parce que dans cet évangile-là, nous sentons à chaque fois que l'on voit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, quelqu'un qui est baissé, qui courbe la nuque, qui courbe l'échine, c'est quelqu'un qui ploie sous le fardeau. Et quel est ce fardeau? C'est rarement un fardeau extérieur. Le vocabulaire est autre à ce moment-là. C'est le fardeau intérieur, on a honte. Cette figure de la femme courbée auquel le Seigneur s'adresse, non pas en la prenant par son prénom, mais l'appelle femme. Le terme femme ne peut que nous faire voir une allusion à la femme, c'est-à-dire à celle que Dieu a créée, appelée la Ève, qui, après avoir péché, a quitté le paradis. Et la honte de son péché l'a fait courber l'échine. Et il y a une correspondance entre l'attitude physique et l'attitude spirituelle de la personne. Quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est avec Dieu, quelqu'un qui vit en harmonie avec les autres est droit, il regarde en face. Quelqu'un qui a honte, ou qui est méchant, ou qui est jaloux, à ce moment-là, il se baisse, il se voûte, il regarde à ses pieds. Ainsi est la femme courbée. Nous n'avons pas à la juger, nous ne savons pas si elle a fait quelque chose. Hein. Le Seigneur la prend comme symbole, en tout cas. Et il voit cette femme courbée, il dit, redresse-toi maintenant. Et c'est le signe, c'est le signe de ce que le Seigneur vient faire en s'incarnant, il vient nous redresser, car nous sommes tous cette femme. Tous nous sommes courbés. Et dans ce handicap dont nous ne pouvons pas nous redresser par nous-mêmes parce que notre échine est soudée, si vous voulez, est paralysée. Il y a un autre mot que je cherche, mais enfin. Il n'y en a qu'un qui peut nous redresser, c'est un médecin spécialiste. cette attitude extérieure qui correspond à une attitude intérieure, à l'attitude de l'âme, vous la rencontrez déjà avec Caïn et son offrande. Dans le livre de la Genèse, il est écrit que Caïn et son offrande, le Seigneur ne les regarde pas. Cela irrita, tiens donc, ça commence. Cela irrita profondément Caïn, parce qu'il exigeait en quelque sorte, il se sentait lésé, parce qu'il exigeait de Dieu qu'il agrée son sacrifice. Ça ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas agréé, ça veut dire que lui avait l'impression que Dieu ne l'agréait pas. La Genèse continue en disant qu'il allait tête baissée. Et le Seigneur lui dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi cette tête baissée? Vous voyez l'insistance. Et si tu agis bien, tu ne peux donc pas relever la tête? Et si tu n'agis pas bien, le péché n'est-il pas couché à ta porte? C'est-à-dire, le péché ne t'attend-il pas? Ça ne veut pas dire qu'il est encore tombé. Parce que en l'occurrence, Caïn offrait à Dieu. Et jusque-là, il n'avait pas péché en soi. Mais le fait de ressentir avec douleur la non-reconnaissance, si je peux l'appeler comme ça, de Dieu, à ce moment-là, il commence à sentir intérieurement un mécontentement, une insatisfaction, une jalousie. Mais ça vient de lui. Et là, c'était encore que de la tentation. C'était de la tentation. Donc, le péché était couché à sa porte. Et le Seigneur continue dans le récit. Il te désire le péché. Il te désire, mais toi, domine-le. C'est-à-dire que malgré ce qu'il ressent, il avait encore la possibilité de dominer sa tentation et de ne pas y succomber, comme on sait qu'il y a succombé en allant jusqu'au meurtre de son frère dont il était jaloux. Vous voyez la correspondance qu'il y a entre l'attitude extérieure et la révélation de ce qu'il y a à l'intérieur. Par ailleurs, nous le trouvons par ailleurs, l'esprit de l'homme supporte ses maladies, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Là est la question. Et c'est la question que nous avons entendue aujourd'hui. Qui peut être sauvé? L'esprit de l'homme supporte ses maladies. Ça nous est dans la possibilité, ça, dans nos possibilités. Mais l'esprit abattu, la fausse componction, le repliement sur soi-même, tout ça, qui peut le relever? C'est la question qui se pose. À nous d'y répondre par l'écoute de la parole de Dieu à travers notamment les Écritures, mais à travers tout ce qui fait la trame de notre vie. J'y reviendrai après. Dans le psaume 56, cette fois-ci j'ai noté la référence, nous lisons ou nous chantons, ils ont tendu un piège sous mes pas, ils ont courbé mon âme. Ils ont courbé mon âme, vous entendez? Ils ont creusé devant moi une fosse, ils sont tombés dedans. Encore un exemple d'expression manifestant cette double enfermement sur soi-même, se répercutant même physiquement. Dans un autre psaume, le 146, celui-là, le Seigneur rend justice aux opprimés, il donne la nourriture aux affamés, le Seigneur délie les enchaînés, il relève ceux qui sont brisés. Voilà la réponse à la question qui était posée précédemment. L'esprit de l'homme supporte ses maladies, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit abattu ne peut être relevé que par celui qui relève ceux qui sont brisés. C'est le Seigneur qui nous relève, c'est le Seigneur qui nous redresse. Et on en a l'exemple typique, c'est-à-dire qui montre ce qui se fait toujours dans l'évangile de la femme courbée, où c'est le Seigneur lui-même qui prend l'initiative et qui lui dit de se redresser. Et nous aussi, lorsque nous sommes brisés, lorsque notre échine est courbée, lorsque notre âme se replie sur elle-même, quels que soient les motifs, même si humainement parlant, nous les jugeons justifiés, le Seigneur est là, et nous devons le savoir, le Seigneur est là qui nous relève parce qu'il nous l'a promis. Ce n'est pas d'ordre affectif, ce n'est pas dans la logique humaine, mais notre foi nous l'indique et nous savons que Dieu ne nous trompe pas. Dans un autre psaume, nous chantons « Je t'exalterai, Seigneur ». Vous voyez le but de la vie, exalter le Seigneur. « Je t'exalterai, car tu m'as prise avec toi. » Alors, s'il nous a pris avec lui, pourquoi on va toujours être courbé? Parce qu'on a péché, en fait une bonne affaire. Je ne vous dis pas de péché exprès, mais est-ce que le Seigneur est miséricordieux ou il n'est pas miséricordieux? Est-ce que nous y croyons ou est-ce que nous n'y croyons pas? Est-ce que nous croyons avec notre logique qu'il faille attendre dans une macération personnelle longtemps pour que le Seigneur nous pardonne? Je t'exalterai, Seigneur, quand tu m'as prise avec toi. C'est aujourd'hui, ça. Et tu n'as pas réjoui mes ennemis. Les ennemis sont vaincus. Ils ont encore un certain pouvoir que le Seigneur leur laisse momentanément. Nous en avons parlé à plusieurs reprises quand nous avons eu l'occasion d'expliquer un peu quelque chose, quelques aspects du livre de l'Apocalypse. Donc les démons ont encore un relatif pouvoir, mais le monde est déjà vaincu, les démons sont vaincus, le Seigneur est déjà victorieux. Il n'est pas victorieux pour le monde vaguement, il est victorieux pour nos personnes au jour le jour. Toute la question est de savoir si nous sommes encore, si nous croyons que nous pouvons nous relever, nous redresser, ou si nous voulons, pour des motifs égoïstes, nous renfermer sur nous-mêmes en refusant l'amour de Dieu. Non, je ne suis pas digne qu'il me pardonne, donc je ne peux pas avancer. Donc je reste courbé. Ça me donne bonne conscience, j'ai l'impression comme ça que je fais quelque chose pour mon salut. Je caricature, mais il y a quelque chose de semblable. Donc dans ce psaume 50, « Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as prise avec lui. » Tu m'as prise avec toi, pardon. Et avant même de sentir qu'on s'est redressé, la première chose, c'est déjà d'exalter le Seigneur. Parce qu'on sait que lui, préalablement, a pris l'initiative et qu'il est venu. Et tu n'as pas réjoui mes ennemis à mon sujet. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. On lit cet évangile, oui, c'est effectivement une forme d'évangile, mais c'est dans le psaume. On lit ce psaume, mais il faut pas simplement lire du bout des lèvres, il faut l'accepter au fond du cœur, il faut que notre vie soit en correspondance avec ce que nous disons, puisqu'il nous a guéris, vivons comme des êtres guéris. Et ce n'est pas parce qu'il peut rester des séquelles, des cicatrices, et que bien que redressé, on a encore un peu mal à la colonne vertébrale, c'est pas une raison pour rester courbé. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire que l'essentiel de notre expérience vitale et spirituelle consiste à mettre ceci en exercice, mais je crois que l'essence, si on peut dire, l'essence de notre raison d'être sur Terre, du temps qui nous est donné, de l'évolution qui nous est offerte, c'est justement d'apprendre à nous laisser redresser. Pas de chercher à nous redresser nous-mêmes, encore qu'on puisse y collaborer. Si nous sommes trop courbés, ben on prend un bâton. Et en l'occurrence, le bâton, c'est la croix. Et s'appuyant sur la croix, on marche comme si nous étions droits. Et tous ceux qui ont fait de la marche un peu prolongée ou qui ont fait de la montagne savent que quand d'avoir un bâton à la main fait que on se met en exercice, on se met en mouvement, et que la joie de la marche, du paysage, de ce que l'on découvre, nous fait oublier même la fatigue ou la douleur. Et à ce moment-là, on marche et on s'aperçoit après coup, tiens, j'avais marché, tiens, je n'avais plus mal. L'essence de notre foi, c'est d'accepter humblement d'avoir été redressé par le Christ et de lui rendre grâce, sachant qu'il ne nous a jamais menti, qu'il ne nous a jamais trompé et qu'il ne nous trompera pas. Relisez cet évangile, voyez la femme courbée et prenons, parce qu'on est tous hélas dans la même galère, prenons la résolution de ne pas être un seul instant courbé, mais de nous redresser. C'est une manière de rendre grâce à Dieu, parce qu'il nous l'a promis, et s'il nous l'a promis, il accomplit ses promesses. Quand nous voyons dans la Genèse que Dieu dit que la lumière soit, hein, la lumière est à ce moment-là. Quand Dieu dit, il agit. Et quand il agit, c'est qu'il crée. Et s'il nous dit qu'il nous guérit, c'est que nous sommes guéris. Et le reste après, les chutes occasionnelles, ne sont que des chutes occasionnelles. Que le Seigneur laisse, dans lesquelles le Seigneur nous laisse tomber, pour que nous ressentions encore davantage la faiblesse de notre situation, pour que, souffrant de cela, mais sans l'accuser, souffrant de cela, on se tourne davantage en lui, qu'on le désire, qu'on ait soif de lui et qu'on le cherche. Qui est le Seigneur? Le Seigneur, nous le chantons le matin à l'orthros et à d'autres reprises dans les offices liturgiques, le Seigneur se définit par c'est celui qui vient. Il est venu, certes. Il est venu, il s'est incarné. On va fêter dans quelques jours, on va fêter cet événement-là. Ça ne veut pas dire qu'il va venir pour la première fois. C'est simplement la solennisation, la réjouissance d'un état de fait. Et il est venu, mais il a disparu à nos yeux. À cause de notre péché, nous l'avons crucifié, nous l'avons mis au tombeau. Il est ressuscité, ça nous le savons, mais nous ne le voyons plus. Nous le savons, nous y adhérons. Il prolonge sa présence par l'Esprit Saint, que souvent, dans un premier abord, on a quelques difficultés à percevoir, et pourtant, il est partout présent. Et maintenant que le Seigneur est invisiblement présent parmi nous, nous le cherchons. Il est celui qui vient et il est celui que l'on cherche. Et dans la mesure où on le cherche et on sait qu'il est venu, là, nous sentons, nous participons, nous voyons véritablement la présence du Christ. La présence du Christ n'est pas une vision oculaire, c'est une reconnaissance de celui qui vient et qui se manifeste à travers notre recherche, à travers notre attente. La vie spirituelle, c'est une attente que l'on sait combler, que que l'on sait être comblé, mais que l'on ne voit pas, mais auquel on croit. À lui soit la gloire, avec son Père éternel et l'Esprit très saint, bon et vivificateur, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Amen.